Merci Arthur, merci Romain. Rendez-vous dans une heure pour Europe Midi.
Sigvaris vous présente Bien fait pour vous. Près d'une femme sur deux souffre de jambes lourdes. Et vous, découvrez la contention Sigvaris. Des chaussettes et collants colorés et tendances qui vous ressemblent. Dispositif médical, consultez la notice.
Europe 1,
Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour à tous.
Vous êtes dans Bien fait pour vous, l'émission Feel Good qui rend votre quotidien plus facile. C'est tous les jours de la semaine jusqu'à midi. Et Mélanie, c'est quoi notre sujet de ce vendredi?
Eh bien, notre question aujourd'hui sera la suivante. Pensez-vous être quelqu'un de courageux? D'ailleurs, savez-vous ce que c'est réellement le courage? Est-ce que c'est une vertu, une qualité avec laquelle on naît? Ou bien peut-on l'apprendre au fil de sa vie? Le courage, c'était aussi dans l'Antiquité, celui peut-être moins réfléchi, du guerrier, du héros, l'opposé de la lâcheté. Alors y a-t-il encore des héros en 2022? On en parlera et puis on verra si finalement le courage ordinaire, le courage du quotidien, c'est pas celui dont on a le plus besoin, celui qui nous permet de changer nos habitudes, de faire autrement, mais de faire tout de même quoi qu'il advienne. On va donc réfléchir à tout ça ce matin, accompagné par Perla Servan-Schreiber. Le livre de son mari Jean-Louis Servan-Schreiber, Le retour du courage, vient d'être réédité chez Albin Michel. Elle va nous en parler et puis nous serons aussi avec Laurence de Villers, docteur en philosophie, enseignante à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne et autrice.
Et ensuite, à 11h45, ce sera comme chaque jour, le quart d'heure des bienfaiteurs. Et on va retrouver d'abord Amélie Escourou. Elle nous propose ce matin d'apprendre à nous faire beau et belle, sans impliquer les animaux dans tout ça. Du côté du maquillage notamment, c'est désormais possible. Elle nous donnera la marche à suivre. Et puis dans cette séquence, il y aura aussi la coach Anouk Garnier. Et aujourd'hui avec elle, focus sur les fentes. Vous savez, c'est cet exercice sportif qui permet de muscler les cuisses et même les fessiers, Mélanie. Elle va nous donner tous ses conseils pour les réaliser à la perfection. Et bien voilà, bien fait pour vous, c'est parti.
Allez.
Europe 1.
Vous êtes sur Europe 1 et comme tous les matins, Mélanie et moi, on va prendre soin de vous. Alors la question du jour, c'est pas si simple d'y répondre. Pensez-vous être quelqu'un de courageux? En tout cas pour le moment, c'est le plus courageux d'entre nous qui va se lancer pour sa chronique. Bonjour Clément Lanoux.
Bonjour et merci pour ce compliment, car ce mot, oui, on l'aime, il est difficile. J'ai essayé d'abord de le décomposer, je me suis dit tiens, courage. Des coups, la rage, deux mots qui inspirent la violence. Après je me suis dit mais ça se trouve courage, ça vient de courir vers l'âge, quelqu'un qui n'a pas envie de vieillir. Puis après je me suis dit, faut vraiment que j'arrête cette émission et de traîner avec des psys, c'est pas possible. Le courage, j'ai pris le dictionnaire, c'est dérivé du mot cœur, c'est plutôt joli. C'est une vertu qui permet d'entreprendre des choses difficiles, qui surmonte la peur, qui affronte le danger, la souffrance et la fatigue. Le courage, c'est quoi finalement? C'est peut-être reprendre ses études à 50 ans, attaquer un 6e régime en se disant cette fois-ci ça va marcher, ou bien terminer un marathon alors qu'au 7e kilomètre on a déjà des crampes. Bref, depuis l'Antiquité, la plupart des civilisations, le courage est considéré comme une vertu indispensable aux héros. Alors si vous êtes courageux, vous êtes un héros. Calmez-vous quand même à ce niveau-là, parce que le courage ne suffit pas à être un héros, ça demande une certaine réflexion. On peut être un héros courageux et vraiment un gros débile. Par exemple, moi, imaginez, on serait en temps de guerre, je pense que je voudrais être le plus courageux d'entre vous, mon espérance de vie serait de 3 minutes. Je sortirais de la tranchée en disant « Allez-y, bah, tirez-moi dessus si vous
êtes... » Et paf.
Ah, il est mort. Ah ok, tant pis. Donc le courage, c'est ce petit interrupteur qu'il faut déclencher ou non en situation d'urgence, et j'ai décidé de vous faire un test.
Ah.
Julia, Mélanie, êtes-vous courageuse? Je vous mets trois situations, vous me dites. Vous pensez l'être?
Oui,
bah, moi je ne suis pas d'avis pour
vous. Si, vous êtes courageuse.
On imagine, vous êtes dans un bus, quelqu'un vole une vieille dame devant vous. Qu'est-ce que vous faites? Petit 1, vous rattrapez le voleur. Petit 2, vous signalez à la dame. Petit 3, vous la pointez du doigt en disant « Ah, tu t'es fait voler !»
Moi, je cours après le voleur.
Non, moi plutôt je lui dis à la dame.
Très bien.
Je suis pas très courageuse, justement.
On note les points, on va voir. Le réveil sonne. Vous vous levez dans la minute? Vous le snoozez deux fois, ou bien vous l'envoyez au visage de la première personne qui dit « Allez, c'est l'heure, les filles !»
Moi, je suis levée avant qu'il sonne.
Oh là là, elle est hyper courageuse. Moi, dans la minute.
Dans la minute. Ok, je note les points, je vous dirai après. Et enfin, quand quelqu'un vous plaît, vous foncez, vous rougissez ou vous pleurez?
Personne ne me plaît, moi je suis équipée. Hein, donc...
vous avez votre mari, qu'est-ce que vous faites avec
il
votre mari?
La première fois.
C'était quoi déjà
Est-ce que vous foncez si quelqu'un vous plaît? Vous rougissez, vous restez dans votre coin ou vous pleurez? Ah, je ne veux pas y aller.
Ah, je fonce quand même.
Ah, elle est courageuse celle-là. Et moi, je rougis.
Voilà. Alors, vous voulez les résultats?
Oui.
Eh bien, au risque de vous décevoir, sachez que j'ai pas eu le courage de recopier les réponses, en fait.
Non.
Et je sais que c'est une énorme frustration. Pour beaucoup, ça va être terrible. Mais c'est une démonstration que je viens de vous faire. C'était juste pour vous montrer à quel point le manque de courage peut être horrible pour votre entourage.
Merci beaucoup Clément Lanoux pour cette introduction pleine de bravoure. Il est temps à présent d'accueillir nos invités pour en parler sans trembler du courage. Bonjour Perla Servan-Schreiber.
Bonjour, je suis ravie d'être là.
Alors oui, bah, habituellement vous êtes chroniqueuse chez nous tous les vendredis, mais ce matin on va parler de courage avec vous parce que le livre de votre mari Jean-Louis Servan-Schreiber, Le retour du courage, vient d'être réédité chez Albin Michel. On va y revenir. Alors en studio avec nous aussi il y a Laurence de Villers. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en philosophie
philosophie, enseignante à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne et également autrice. Je commence avec vous, Perla. Vous avez préfacé cette réédition du livre de votre époux. La première édition était sortie il y a 36 ans, mais c'est toujours un sujet d'actualité, le courage en 2022 ?
Je crois qu'il l'est encore pour longtemps et moins on est entouré de gens courageux, y compris moi-même dans beaucoup de circonstances, et plus on en parlera. Mais je crois que le moment est venu pour que nous puissions redonner à cette vertu tout son sens et que, bien sûr, on a peur. Mais c'est la peur qui vous met en route vers le courage. Ça n'est pas l'inverse. Et en tout cas, ces deux ne s'annulent pas. Il s'accompagne. On prend sa peur par la main, on a du courage et on avance. Ça, c'est ce que je peux dire, en tout cas.
En préambule.
Voilà, en prélude.
Laurence de Villers, si on doit un peu définir les choses pour commencer, le courage, c'est quoi ? J'imagine que tous les philosophes n'ont pas la même idée du courage. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ?
Oui, il y a par exemple une opposition qui est intéressante en philosophie. C'est que, alors évidemment, on va remonter chez les Grecs, comme toujours en philosophie, hein, puisque c'est quand même là que tout commence. Aristote va défendre quelque chose qui est à contre-courant. Il va dire qu'en fait, dans le courage, la colère peut être une aide.
Oui,
alors que la façon de voir la philosophie comme une sagesse, c'est cette sagesse, elle va mettre hors jeu, hors la loi même, certains sentiments, certaines émotions, certaines passions, dont la colère. Et lui, Aristote, va montrer justement qu'il faut du cœur au courage. Et que pour mener à bien, par exemple, s'ériger contre une injustice, vouloir au contraire faire triompher la justice, eh bien peut-être que le courage, sans le carburant de la colère, n'arriverait pas à son objectif. Donc ça, c'est quelque chose de... Voilà, il y a en fait des disputes autour de qu'est-ce qui fait le courage en philosophie.
Mais on va continuer d'en parler dans un instant avec vous. Perla, vous écrivez que le courage se manifeste souvent dans des situations tragiques. Vous évoquez évidemment la guerre en Ukraine, mais est-ce que le courage, ce n'est pas quelque chose qu'on devrait avoir quand même au quotidien aussi, dans des actes vraiment tout à fait simples de la vie ?
C'est d'ailleurs celui qui, je peux dire, nous rend le plus service. Hein, parce que, certes, j'ai été extrêmement frappée, comme nous tous et beaucoup de gens, par le comportement de Zelensky et de tout son peuple, pas seulement le sien, et qui continue. C'était la première fois, et j'ai pourtant bientôt 80 ans, que je voyais un héros s'exprimer sur quelque chose qui se passe aujourd'hui en Europe. Hein ? Ça m'a énormément frappée. Et la deuxième chose, c'est que j'ai immédiatement pensé, évidemment, au titre, à ce livre de Jean-Louis, Le Retour du Courage, et c'est ce qui m'a donné le courage de le rééditer et d'en écrire la préface. Et en fait, quand j'ai écrit ce livre, d'écrire ce livre m'a donné du courage, et je peux juste témoigner que de l'avoir relu m'a aussi donné du courage.
Oui, j'allais vous demander de rééditer ce livre alors que votre mari vous a quitté il y a 2 ans. Ça vous a demandé beaucoup de courage ?
Ça m'a demandé beaucoup de courage et en même temps, je me suis dit, si j'en ai eu l'idée, c'est un peu une espèce de spiritualité de bas étage, mais vous savez, quand on est à ce point traumatisé, on s'accroche un peu à ce qu'on peut.
Oui.
Voilà. Ce qui passe, on s'accroche. Voilà. Et je me suis dit, mais peut-être que ça, c'est quelque chose, ce courage-là, que je vais avoir, puisqu'il faudra que je parle à sa place.
Oui.
Hein ? Ça n'est pas rien de parler à sa place. Mais pour moi, ça voulait dire qu'il était encore vivant. Donc, j'y suis allée.
Merci d'être avec nous, si courageuse aujourd'hui. Vous restez bien sûr avec nous. Et vous qui nous écoutez, faites de même. On parle de courage aujourd'hui. Et pas forcément celui du guerrier ou du héros, car le courage ordinaire, celui du quotidien, il est peut-être moins flamboyant. Mais qu'est-ce que c'est difficile d'être courageux tous les jours, encore et encore. On y revient dans un instant sur Europe 1.
Vous êtes en Bienfait pour vous et notre question du jour est la suivante. Pensez-vous être quelqu'un de courageux ? C'est quoi le courage pour vous ? N'hésitez pas à nous faire part de votre avis ou à nous poser vos questions au 3921, le répondeur d'Europe 1.
Gémeaux, le prêt à vivre.
Si vous êtes prêt à transformer le réveillon en grand tournoi de Mario Kart, allez, la petite carapace, là, alors. Ou prêt à découvrir que votre grand-mère maîtrise déjà votre Xbox toute neuve.
Mamie, on passe à table, s'il te plaît.
Alors vous êtes prêts à découvrir le grand jeu de Noël Gémeaux. Jusqu'au 13 décembre, pour l'achat d'un article de la collection Jeux vidéo à partir de 8,99€, tentez de gagner des Xbox, des Nintendo Switch et de nombreux jeux. Conditions en magasin et sur gémeaux.fr.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron ?
C'est chaud pour nous ?
Bah c'est même hot patron. Dès demain, Lidl offre 50% de réduction immédiate sur tous les jouets du catalogue jouets en activant le coupon sur l'application Lidl Plus.
50% de réduction sur le catalogue jouets ? Mais c'est Noël avant l'heure chez Lidl.
Bah, c'est surtout samedi et dimanche patron.
Ce week-end ? Ils nous font vraiment pas de cadeaux.
Oh on est mal.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Pour plus d'économies, téléchargez Lidl Plus, votre programme de fidélité. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
De retour dans votre émission Feel Good Mieux Vivre, on vous propose aujourd'hui de réfléchir avec nous à un sujet un peu philosophique et à la fois très ancré dans notre quotidien. Pensez-vous être quelqu'un de courageux ? On fait le point sur ce sujet avec Perla Servan-Schreiber à l'occasion de la réédition du livre de son mari Jean-Louis, Le Retour du Courage, paru chez Albin Michel. Et puis avec nous également Laurence de Villers, docteur en philosophie, enseignante à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne et autrice. Alors Laurence, vous avez écrit un essai intitulé « Être quelqu'un de bien, le courage, c'est ça, non ? C'est être quelqu'un de bien ? »
Oui, quelqu'un de bien. En fait, il y avait deux choses et je suis contente de la réédition de ce livre avec ce titre-là et que votre émission ait ce titre-là et non pas « Courage et résilience », par exemple. Mmh. Parce que je m'inquiète de voir des mots disparaître, et des mots qui sont aussi importants, disparaître ou être édulcorés. Mon idée, c'est que être quelqu'un de bien, pour répondre très vite, pour évidemment je vais tuer le suspense, hein, mais c'est quelqu'un de courageux. Je crois qu'en fait, on ne cesse de discuter autour de oui, mais la morale, est-ce qu'on sait ? Est-ce que finalement, il n'y a pas des différences, du relativisme ? Non, il y a deux catégories. Il y a le courage et il y a la lâcheté. Il y a le courage de s'insurger contre le mal, de ne pas être complice du mal. Il y a le courage de dénoncer une injustice, il y a le courage de dire non, d'être debout. Il y a le courage des hommes debout, ordinaires et extraordinaires à la fois, en réalité. On est toujours un héros à la fois ordinaire et extraordinaire. Pourquoi extraordinaire ? Parce que le courage, c'est refuser le « oui, c'est comme ça ». Et le « oui, c'est comme ça », c'est pour moi le pire. C'est le mal, parce que c'est la lâcheté qu'on s'autorise en se disant « c'est pas si grave, c'est comme ça, les choses sont comme ça, les hommes sont comme ça, on va pas les changer ». Bah si, être quelqu'un de bien, c'est celui qui a le courage de dire « c'est peut-être comme ça, mais je ne veux pas ».
Alors justement, par là, vous parlez du courage comme de la sœur jumelle de l'humanité. Pour vous, elles ne peuvent pas exister l'une sans l'autre. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Il me semble que nous avons suffisamment d'exemples autour de nous au quotidien pour voir à quel point, et c'est ce que vous venez de dire, la lâcheté est quand même quelque chose qui est extrêmement fréquent et quotidien à tous les âges. À tous les âges et dans tous les milieux. Hein, dans tous les milieux. Ici, ce matin, je voudrais bien préciser à nos auditrices et à nos auditeurs que cette émission, et c'est bien votre intention, bien sûr, à vous, de ne culpabiliser personne.
Bien sûr.
On ne jette la pierre à personne. Être courageux, c'est quelque chose qui demande un petit peu d'inconscience, pas mal de peur et finalement de se lancer et de faire un pas. Probablement que de sauter en parachute, ça doit être un peu ça. Je ne sais pas.
Vous voulez dire que finalement, la première fois, on le fait avec inconscience, c'est la deuxième fois, c'est encore plus difficile.
Ça rend encore plus difficile. Bah oui. Mais de l'avoir fait, y compris vraiment, encore une fois, en évoquant que ces magnifiques héros et héroïnes du quotidien.
Oui.
Hein, il arrive qu'on le soit soi-même, mais enfin, il y en a quand même beaucoup qu'on observe autour de nous. Et ça, le héros du quotidien ou l'héroïne du quotidien, il y en a sur son palier. Il suffit simplement de s'intéresser aux gens et de voir ce qu'elles arrivent à faire. Et là, on a un point commun, puisque j'ai lu non pas la totalité de vos ouvrages, mais en tout cas deux d'entre eux qui m'ont beaucoup marqué. Et vous disiez à quel point vous étiez frappé que le mot de « morale » était démodé, entre guillemets. Ça n'est pas l'expression que vous avez utilisée, je m'en excuse, mais c'est ce que j'ai... Voilà, en tout cas, on refuse de l'utiliser, on préfère dire éthique, alors qu'on veut dire la même chose.
L'hérétique. Eh bien, le courage, c'est la même chose. Et je vous disais que c'est Zelensky qui m'a donné le courage d'en avoir un tout petit peu, mais il y a aussi un jour, à une émission de télévision que j'aime énormément, il y avait là une journaliste, d'un grand quotidien qui était là et que j'aime vraiment et que je respecte beaucoup et qui racontait justement l'interview d'une très grande dame en Ukraine qu'elle avait faite et dont elle parlait, puisque l'article allait paraître le lendemain ou le surlendemain. Et la journaliste lui pose une question très simple. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé chez cette dame ? Et là, je vois cette ravissante femme, blonde vénitienne, mais devenir rouge, mais rouge ! Le rouge est monté aux joues, vous voyez ? Et alors, elle bougeait un peu comme si elle avait des cactus sur sa chaise, mais avec un charme fou. Et elle disait, écoutez, j'ose à peine, je ne sais pas comment le dire autrement, mais je crois que ça s'appelle le courage.
Ah, génial !
Elle s'est excusée. Oui. De prononcer ce mot.
Oui. Laurence, est-ce qu'on peut dire de soi-même qu'on est courageux ou alors c'est une qualité qui nous est attribuée par les autres et par leur jugement ? Est-ce qu'on peut s'ériger en personne courageuse ?
Mais précisément, je crois que c'est ce que vient de dire Perla, c'est que il y a quelque chose de mystérieux qui se passe chez les personnes courageuses. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'une morale culpabilisatrice. La morale, c'est quoi ? Juste pour dire ça, c'est quand on nous montre que c'est possible. Et un héros, c'est ça, c'est celui qui dit « c'est possible, peut-être que vous ne le ferez pas, peut-être que vous n'avez pas à le faire, peut-être que vous avez la liberté de refuser de le faire, mais en tout cas, je vous montre que c'est possible. » Le courage, je suis toujours frappée de voir que les gens courageux ne le disent pas d'eux-mêmes, parce que c'est comme si, en fait, ils faisaient quelque chose qui s'imposait à eux. Mmh. Et ils disent « bah oui, qu'est-ce que vous vouliez que je fasse ? Oui, ça me semblait normal. » Et je trouve que c'est ça la force du bien. Ça passe par moi, ça ne se fera pas sans moi, mais ça s'impose à moi.
Alors, on va l'illustrer un tout petit peu, le courage. Malheureusement, vous n'allez pas pouvoir nous le raconter pendant des heures, l'anecdote, mais je sais que Jean-Louis et vous-même, Perla, vous avez été courageux à plusieurs moments dans vos vies. Notamment, vous m'aviez raconté en préparant l'émission que il y a une histoire comme ça. Vous avez repris un journal, une feuille de chou au Maroc, à Casablanca. C'était une idée un peu folle, hein, courageuse, mais folle. Tout montrait que vous alliez échouer, mais vous avez quand même eu l'audace de vous lancer. Et peut-être à deux, c'est ça aussi qui fait le courage encore plus fort.
Oui. Il faut reconnaître qu'à deux, c'est quand même plus facile, surtout que je n'ai pas simplement vécu 34 ans avec Jean-Louis, mais j'ai travaillé 34 ans avec Jean-Louis, donc on a travaillé ensemble. Mais en fait, c'était parce que c'était un moment où le magazine qu'il avait créé, qui était très, 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 très puissant, qui s'appelait L'Expansion, il a créé ce magazine à 29 ans, puis il en a fait un grand groupe de presse, puis ce groupe s'est écroulé au moment de la guerre d'Irak, parce que la pub s'est écroulée, et là,
On s'est vu
face à face avec un grand homme de presse chez nous, à la maison, nous étions trois. Il nous a proposé, non pas un euro symbolique, mais un franc symbolique, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore l'euro. Et là, je me suis dit, alors là, chapeau Jean-Louis. Il a été, mais admirable. Et non seulement admirable de s'entendre dire ça, mais admirable pour trouver une idée, mais j'avais les mêmes papiers que lui sous les yeux, hein. Moi j'ai rien vu du tout, et de se dire, on part, on va au Maroc, on va s'occuper de cette petite feuille de chou qui était dans le panier de cet éditeur, et on va en faire quelque chose.
Et ça vous a aussi donné du courage, son propre courage. C'est ça qui est intéressant, Laurence. Est-ce qu'on peut être courageux pour quelqu'un d'autre, pour le soutenir là, dans le cas de Perla et de Jean-Louis, le courage s'est transmis
oui, c'est contagieux.
Dans le couple. Est-ce que c'est contagieux ?
Mais Julia, le courage, je pense que tout ce qui nous élève est contagieux.
Comme la joie, c'est contagieux.
Tout ce qui nous diminue, nous abaisse, nous humilie, enferme, et celui qui nous le fait subir et nous-mêmes, mais tout ce qui nous élève, oui, il y a une vraie contagion du courage.
Et puis de le voir.
Voilà, c'est ça.
De voir que c'est possible. Physiquement, quelqu'un a du courage, ou moralement qu'il a du courage face à vous, ça vous donne des ailes.
Ce qu'on sent aussi par là beaucoup dans votre histoire, c'est que le courage a pas mal attisé le sentiment amoureux. Hein, on peut dire ça, je crois qu'être à côté de quelqu'un de courageux...
Non qu'il en ait eu besoin, mais c'est toujours extrêmement agréable de voir un amour devenir plus puissant. D'ailleurs, c'est une conviction personnelle, simplement, encore une fois, d'expérience de vie. Aimer demande du courage et exige du courage. Je crois que c'est une chose importante à dire, et aimer dans la durée, c'est pour moi la plus folle aventure humaine, c'est-à-dire celle qui, par le courage que ça exige de vous au quotidien, vous rend plus humaine. Et personnellement, je ne connais rien de plus beau.
Eh bien, merci à vous deux. Vous ne bougez pas. On va continuer cet entretien dans quelques instants. On décortique ce qui fait le courage ce matin. Vous rappelez, vous, la dernière fois, vous avez peut-être vous-même fait preuve de courage. Le courage de dire la vérité, le courage de dire non. Il prend des formes diverses et variées. Et on fait le point dans quelques minutes sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali.
Mélanie Gomez.
Merci beaucoup d'écouter Europe 1. On est toujours en train de s'intéresser au courage. C'est notre sujet ce matin. Pour en parler, nous sommes toujours avec Perla Servan-Schreiber à l'occasion de la réédition du livre de son mari Jean-Louis, Le retour du courage chez Albin Michel. Et puis avec nous aussi Laurence De Villers, docteur en philosophie, enseignante à l'université de Paris 1, Panthéon Sorbonne. Alors dans son livre, Jean-Louis, votre époux Perla écrivait qu'il y avait seulement deux courages importants, celui de mourir et celui de se lever le matin. Et c'est vrai qu'il en faut du courage pour sortir de son lit parfois, mais est-ce que le courage, il doit toujours avoir cette dimension un peu de sacrifice quelque part? On a l'impression que ça coûte d'être courageux.
Écoutez, j'ai eu moins de courage dans ma vie que Jean-Louis n'en a eu, ça c'est tout à fait clair et net. J'étais d'ailleurs très fière de vivre avec quelqu'un qui était plus courageux que moi. Mais malheureusement, il m'a donné l'occasion de le voir aussi mourir. Et là, c'est vrai que c'est un courage qui est... quand vous êtes à côté de quelqu'un que vous adorez et qui est en train de mourir, c'est pas au courage qu'on pense. Hein. Pas du tout. Hein. Très sincèrement, c'est pas du tout à ça. Mais il y a très peu de temps après, parce que les humains sont comme ça et qui doivent continuer à mettre un pied devant l'autre et à avancer, très peu de temps après, on est imprégné de ce courage que nous avons, en tout cas, dont nous avons eu, nous, la lecture. Peut-être que c'était une projection, peut-être que c'est... Je ne sais pas. Mais il y a eu ce moment d'une intensité émotionnelle folle qui n'était pas simplement du chagrin à ce moment-là, ça devient du chagrin après, mais d'être impressionné par quelque chose que rien ne me permettait de lire dans ses traits, mais qui disait le courage de partir avec une telle sérénité, mais par une espèce de politesse extrême pour ceux qui peut-être étaient autour de lui à ce moment-là.
Laurence, est-ce qu'en tant qu'humain, on est davantage enclin au courage ou à la lâcheté si on fait les choses instinctivement sans réfléchir?
Je dirais les deux, parce que le courage, justement, c'est pas un combat, une lutte, un effort, un sacrifice, c'est une liberté. C'est une expérience de liberté, c'est-à-dire que tout peut en moi m'incliner à rien faire, à me dire c'est pas mon problème, je veux pas entendre, j'ai rien vu, mais tout m'incline aussi à faire le choix de dire non. Donc je crois que pour éviter justement cette moralisation culpabilisatrice, faut se dire que c'est une expérience, et pour moi c'est quasi l'unique expérience de liberté. Et par rapport à ce que disait Perla, j'aime beaucoup le mot de politesse. En fait, le courage, c'est la dignité jusque dans mes faiblesses. Je pense que c'est cette politesse d'être soi qu'on met, y compris quand on décide de plus lutter, de laisser aller. La dignité même dans les faiblesses.
Bien sûr. Voilà. Il faut du courage pour lâcher.
Est-ce que le courage, c'est une valeur absolue? Je veux dire, est-ce que quelqu'un de courageux, il doit l'être forcément toute sa vie? Ou est-ce que parfois, il peut être aussi un peu lâche? Est-ce que même si on a été lâche une fois, on restera néanmoins quelqu'un qui a été courageux le plus souvent?
Mais non. Non mais non, parce que justement, c'est une expérience de liberté. Donc, ce n'est pas la question de mon caractère ou de tout ce qui me détermine ou pèse sur moi. C'est que peut-être que je suis quelqu'un de peureux, de lâche. Mais j'ai toujours l'honneur de pouvoir un jour être courageux. Et je peux avoir été quelqu'un de courageux et avoir montré des lâchetés assez vilaines. Donc non, je crois qu'il faut vraiment éviter, parce que ça nous permettra d'utiliser les mots dans leur valeur, éviter de figer ce qui ne l'est pas. C'est vraiment le courage, c'est une expérience que je fais, du choix que je fais d'être tel ou tel à tel moment.
D'ailleurs, Perla, vous citez dans votre livre à vous, 78 ans, vieillir et vivre, Romain Rolland, qui écrivait « Il n'y a qu'un héroïsme au monde, c'est de voir le monde tel qu'il est et de l'aimer ». Est-ce qu'on est plus courageux, justement, à mesure qu'on prend de l'âge, vous pensez?
Évidemment, parce que l'expérience vous rend plus raisonnable. Et pour moi, c'est la définition même de la raison, c'est de cesser d'essayer de répondre aux questions qui ne dépendent pas de vous.
Mais donc la lucidité...
Quand on a compris ça déjà, c'est bien.
La lucidité, c'est obligatoire pour être courageux?
Non, c'est pas obligatoire. C'est les leçons de la vie, simplement. Hein, c'est des leçons de vie. Mais il arrive qu'on le comprenne très tôt. Je sais pas, moi j'ai mis beaucoup de temps pour comprendre ça. Je suis un peu lente. Mais j'ai compris un jour, et ça a été une libération extraordinaire. D'abord... face à un problème, est-ce que ça dépend de moi ou ça ne dépend pas de moi? Non.
Alors, c'est la règle du stoïcisme.
On y va, on accepte on avance.
C'est le stoïcisme, ça.
Perla, c'est la règle de Sénèque. Tu vas t'engager dans des combats vains en pensant que la victoire dépend de toi, alors qu'en fait, elle dépend absolument pas de toi. Et l'exemple qu'ils donnent, un exemple que donnent les stoïciens, c'est comme si tu allais au bain, enfin à la piscine, en ne voulant pas être mouillé. C'est pas possible. Donc,
mais dans ces cas-là, on fait quoi? On s'abstient? Donc on manque de courage? On se jette pas dans la bataille?
Non, alors c'est tout le problème du stoïcisme, c'est que on l'a beaucoup critiqué.
Aussi d'être mouillé.
Ben voilà, en disant accepter ce qui m'est difficile d'accepter, il faut toute une vie, voire c'est impossible. Donc effectivement, alors moi je ne sais pas si en vieillissant on est plus courageux. Moi j'ai l'impression que j'ai peut-être plus de rage en vieillissant. Alors peut-être qu'il faut, je vais changer par là, vous me direz. Mais j'ai l'impression d'avoir des appels au courage que je n'ai pas ou que les autres n'ont pas.
Je n'ai pas l'impression du tout d'être plus courageuse à mon âge, sincèrement, pas du tout. Mais j'ai l'impression d'avoir compris des choses, tout simplement, qui me permettent de vivre mieux.
C'est pas la
totalement
même chose.
Différent.
Hein? Par là, est-ce que selon vous, le courage est lié peut-être à d'autres qualités, d'autres vertus? Vous avez dit donc pas forcément en vieillissant, on n'est pas plus courageux, mais on a l'impression quand même qu'être courageux, ça requiert beaucoup de patience. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Ça requiert... je ne sais pas si j'utiliserais le mot patience, parce qu'au contraire, je verrais plutôt le courage comme une espèce d'élan à un instant d'inconscience. Oui. Hein? Mais il me semble que si on l'a vu autour de nous, alors ça vous permet un jour de reprojeter cette espèce de diapositive qui tombe devant les yeux si vous avez vu votre mère, votre père,
donc,
votre frère,
en maman que je
ami.
Suis, je me dis que si je veux espérer avoir mes enfants qui seront, peut-être que j'espère, on souhaite tous avoir des
pour
enfants
ça,
courageux,
il
faut que je me montre courageuse.
Il y a une éducation au courage par l'exemple, enfin, comme toute éducation, je crois.
Évidemment.
Et d'ailleurs, une question pour toutes les deux, on a beaucoup parlé là, du courage individuel, mais on pourrait aussi parler du courage collectif. Est-ce que ça existe aussi des mouvements de courage collectif? C'est vrai que ce qu'on voit en ce moment en Iran, en Ukraine... Oui. Il y a un effet fédérateur aussi du courage, non?
Oui, on a souvent vu l'histoire comme l'histoire des fracas, des guerres, du sang, de la sueur et de larmes. Et en fait, on oublie que l'histoire, c'est aussi l'histoire des courages collectifs. Enfin, je crois qu'on ne dira jamais assez de voir le courage, vous en avez parlé, de ce peuple ukrainien, qui en fait est en train de dire ce qu'est l'Europe pour nous, et ce sont nos porte-parole, et puis ce qui se passe en Iran. Donc, je pense que c'est curieux parce que notre époque a envie d'être ou noir ou blanc, enfin ou pessimiste ou optimiste, alors que non, l'histoire nous montre que dans une période où on croit plus en grand chose, en tout cas c'est ce qu'on entend, bah on a des peuples, des pays, des endroits, femmes, des coins du monde qui nous montrent, encore une fois, je pense que le courage c'est quelqu'un qui nous montre que c'est possible. Eh bien en Ukraine, en Iran, on nous montre que c'est possible.
Plutôt mourir que...
Oui. Par là, vous posez une question intéressante dans le livre. Vous dites le courage aujourd'hui consisterait-il peut-être à envisager d'éteindre son portable?
Oui.
Pour vous, on va finir par ça, par là. Mais les réseaux sociaux sont pas compatibles avec le courage, vous pensez?
On va finir par ça. Ouais. Et c'est incroyable parce que ce matin, j'ai lu dans une newsletter que j'adore qui s'appelle Le Filtre une information qui dit ça y est, les ados préfèrent aujourd'hui le tricot au réseau.
Et ça vous a donné du courage, ça?
Oui, ça m'a donné du courage. Et alors, ça s'appelle le Ludite Club.
Oui, on en a parlé.
Oui, contre les machines. Oui.
Parce que vous pensez qu'il faut éteindre son téléphone pour avoir du courage? Vraiment? Qu'il faut s'abstenir de regarder ce qui se passe?
Non, c'est l'inverse. C'est que d'éteindre votre téléphone est signe de courage et vous donne...
C'est ça. C'est ça. Mais pourquoi?
C'est ça.
Parce qu'on est trop
parce que sinon vous l'avez dit.
Mais oui, sinon vous êtes coupé du monde. Coupé du monde, c'est-à-dire vous êtes dans le flux.
Un dernier mot chacune, mais très court. Qu'est-ce qui vous donne le plus de courage dans la vie à toutes les deux? On va commencer par vous, Laurence.
D'avoir eu des parents courageux.
Et vous, Perla, qu'est-ce qui vous donne du courage aujourd'hui?
Je sais pas, des sourires peut-être.
Allez, on en a pas mal dans cette émission, c'est ce qu'on essaye de faire en tout cas. Merci beaucoup à vous deux pour cet éclairage sur le courage.
Merci.
Pour en savoir plus, je rappelle le livre de Jean-Louis Servan-Schreiber sur ce sujet, Le Retour du Courage, qui vient d'être réédité chez Albin Michel. Merci encore à vous deux. Julia, il se passe quoi ensuite dans l'émission?
Eh bien, nous allons à présent retrouver nos bienfaiteurs avec Amélie Escourou. On va voir que désormais, il est possible de se maquiller sans jamais impliquer les animaux dans tout ça. Et puis avec la coach Anouk Garnier, il va nous en falloir aussi du courage parce qu'elle s'est mise en tête de nous initier aux fentes. Vous savez, cet exercice de musculation qui a tout bon. Alors restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous êtes sur Europe 1, de retour dans votre émission matinale toujours positive. Nous sommes avec vous jusqu'à midi et on passe à présent au conseil avisé de nos bienfaitrices du jour, Anouk Garnier. Bonjour.
Bonjour.
Ah, on vient d'apprendre comment devenir plus courageux au quotidien et j'imagine qu'avec vous, on va en avoir besoin, non?
Oui, totalement. Vous allez avoir du courage pour muscler vos cuisses et vos fessiers.
Avec les fentes.
On peut feinter avec les fentes. Non,
ouais, bonne, c'est bien. Jolie. Hein, jolie,
on la garde.
Pour tout à
l'heure. Allez, merci à nous qu'on revient avec vous très vite. On va commencer avec les bons conseils d'Amélie Escourou, qui est notre coach végane. Vous conseillez les gens qui souhaitent végétaliser leur mode de vie. Aujourd'hui, vous vous penchez sur la question du maquillage végane, cruelty free, non testé sur les animaux. Beaucoup de mentions, c'est vrai, sont apposées sur nos cosmétiques. Vous allez nous aider à faire le tri.
Oui, et vous venez de parler de courage. Et justement, le maquillage est typiquement quelque chose qui peut nous en donner. C'est un moment à part où on se donne la force, l'envie d'affronter la journée et on n'a pas du tout envie de penser, dans un moment comme ça, qu'on pourrait faire du mal aux animaux. Alors, pour éviter ça, vous avez raison, il y a des logos, des allégations, mais ça n'est pas toujours très clair.
Alors justement, Amélie, est-ce que vous avez des indices pour qu'on s'y retrouve ?
Oui, alors la première chose à faire, c'est de chercher le logo ou l'appellation « vegan ». Ça nous assure qu'aucun ingrédient d'origine animale n'est contenu dans notre maquillage. On évite ainsi de s'appliquer sur le visage des dérivés d'huile de foie de requin, de cire d'abeille, de sébum de mouton ou, le plus sympathique de tous, de la chenille écrasée.
J'hésite avec le sébum de mouton, ça me dégoûte un peu.
Hein. C'est sympa, hein. Et ben, la chenille, c'est elle, donc la cochenille, qui permet d'obtenir le carmin. Vous savez, cette couleur rouge si emblématique qu'on retrouve.
Celle que vous avez sur la bouche.
Exactement.
Mais j'imagine qu'il n'y a pas de chenille chez
vous.
Non,
je vais vous expliquer ça.
Il n'y a pas de mouton non plus.
Il n'y a pas de mouton. Et voilà, la cochenille, elle est partout, hein, dans le blush et aussi le vernis à ongles.
Alors effectivement, mais avec le label vegan, on est tranquille complètement du coup ou pas ?
Alors, j'aurais aimé vous dire oui, mais non. Vegan, en cosmétique, veut dire qu'il n'y a pas d'animaux dedans, mais ça ne veut pas dire que ça n'est pas testé sur les animaux. Oui, c'est un peu compliqué. Alors, la bonne nouvelle, c'est que depuis 2013, l'Europe interdit les tests en labo sur les animaux pour les cosmétiques.
D'accord.
C'est pas le cas en Chine ou aux États-Unis, hein, pour vous donner une idée. Mais en réalité, même en France, il y a beaucoup d'exceptions pour différentes raisons et certains ingrédients contenus dans notre maquillage sont encore testés sur les animaux. Donc, surveillez sur votre produit les labels des grandes associations de protection animale. Celui de PETA, vous savez, où l'on voit un petit lapin avec écrit « vegan » et « cruelty free », il est très bien, par exemple.
Donc ça veut dire que ça n'a pas été testé sur les animaux.
Exactement. Okay. Et ces labels voilà, garantissent aucun test du début à la fin. À l'inverse, les marques, elles n'ont plus le droit d'écrire elles-mêmes « non testé sur les animaux » pour éviter les abus.
Bon, d'accord. Ok. Donc si je vous suis, mieux vaut deux mentions qu'une, hein, « vegan » et « cruelty free ».
Exactement.
Et je vois que vous êtes aussi venue avec votre trousse de maquillage. Qu'est-ce qu'il y a dedans ?
Alors, je vous ai apporté les produits de deux marques françaises exceptionnelles qui ont pris des engagements forts pour la planète et les animaux. Une marque, petit prix, mais grande exigence, Charlotte Bio. Alors, elle a été élue en marque de maquillage la plus sûre par l'UFC Que Choisir.
Je cherche les petits logos, hein, j'imagine qu'ils y sont.
Ouais, alors,
vegan, je vous en passe un.
Alors,
ça,
pour Charlotte Bio, le logo non testé sur les animaux, il est sur les présentoirs.
Ah oui, parce que là, je ne le vois pas.
Exactement, mais c'est quelque chose qui doit changer.
D'accord.
Et alors, on la trouve facilement, justement, notamment en grande surface. Et c'est hyper accessible au niveau prix, à partir de 8 euros. Mascara, rouge à lèvres, teint. Ils ont plus de 125 références qui sont conditionnées, vous voyez, dans des emballages.
Carton, hein.
Voilà, carton recyclable avec
c'est
des
joli
looks.
En plus.
C'est coloré, c'est sympa. Et bien sûr, c'est vegan et non testé sur les animaux, car comme me l'a confié la directrice de marque, c'est la demande prédominante de leur clientèle depuis 2 ans.
Et dites-moi, ça coûte pas plus cher quand même ?
Bah là, alors, cela, vraiment, non, c'est à partir de 8, entre 8 et 15.
D'accord, donc quand on compare, par exemple, le blush que j'ai dans la main, il n'est pas plus cher que les autres blushs.
Non, moins cher, beaucoup, parce que enfin, vous avez un blush à 8 euros, vous ?
C'est 8 euros le blush,
oui, franchement, oui. C'est entre 8 et 15 euros maximum pour tout ce qui est teint pour cette marque.
Donc, il n'y a pas de raison de s'en passer, vous avez raison. J'ai repéré que vous aviez un beau rouge à lèvres aussi, c'est qui ça ?
Elle a dit sans chenille, hein, ça en est sûr.
Exactement. Et bien, celui-ci, c'est le Rouge Français, une marque de maquillage glamour, totalement surdouée, que j'adore. En plus d'être 100% fabriqué en France, made in Normandie, plus précisément.
C'est classe, c'est joli ce petit emballage velours.
Et alors, vous avez vu, l'emballage, il est en huile de ricin biodégradable, c'est pas du plastique. Et alors, donc c'est bio, vegan, cruelty free, mais surtout, ils ont créé les premières colorations végétales dans les cosmétiques. Alors, ici, adieu la pétrochimie ou la chenille écrasée. À l'instar de Cléopâtre, on y croit, on applique sur nos lèvres des couleurs extraites de plantes bienfaisantes, la garance comme le rouge que je porte, l'hibiscus ou encore la rose de Damas.
C'est joli.
C'est joli.
Oui,
hein.
Ça sent bon. Excusez-moi, je vous.
Non, mais si on peut
J'enquête. Est-ce que ça tient aussi bien ?
Franchement, écoutez, moi, j'étais aussi assez dubitative. Vous voyez, je l'ai posé avant de venir. Ça fait quand même déjà 2 heures et il tient.
Bah là, vous l'avez parfaitement
voilà, bien. Voilà, je pense qu'on peut quand même voir qu'il y a une qualité similaire à un autre rouge à lèvres.
Et en plus, il paraît qu'on ingère jusqu'à 4 kilos de rouge à lèvres dans notre vie, donc autant bien les choisir.
Exactement.
Anne Garnier, elle est hallucinée.
Non, 4 kilos,
exactement. Oui. on ingère environ 30% de la matière qu'on pose sur nos lèvres. Donc c'est vraiment important de faire attention à ce qu'il y a dedans.
Très important. Bon, je vous avoue, je mettais déjà pas du rouge à lèvres avant.
Donc vous allez
peut-être que je l'ai dit, maintenant je suis tentée.
Celui-là, enfin les deux marques que je vous ai présentées, vous pouvez y aller les yeux fermés.
Ouais, comme ça, vous êtes sûr de pas manger du mouton.
Manger de la rose, c'est comme ça.
Eh bien, merci beaucoup Amélie pour toutes ces infos. Allez, il est temps de chausser les baskets pour terminer cette émission en beauté et surtout en pleine forme. Anouk Garnier, c'est parti pour les fentes, c'est bien ça ?
Oui, alors c'est un grand classique du fitness et de la musculation. Alors je vais vous décrire ce mouvement, mais vous savez quoi, les filles, levez-vous s'il vous plaît. Julia, vous m'avez demandé quoi tout à l'heure ?
Une semaine sur deux, là, c'est Mélanie.
Moi, je suis debout, là.
Alors, je vous explique, c'est très
simple.
Il vous faut un petit peu de place derrière vous, les filles. Voilà, juste ça. Les fentes, c'est simple. Il faut
si on ne fait pas bien, ça ne sera pas notre faute, c'est la faute du studio qui est trop petit.
Oui, c'est ça, Mélanie. Oui, c'est ça. Alors, reculez un pied. Vous allez reculer juste votre pied loin derrière. Voilà. Et le pied arrière, vous gardez le talon surélevé et vous essayez juste de descendre le genou vers le sol et de remonter. Voilà. Mélanie, elle a eu un petit claquage direct. Non, c'est juste pour vous décrire, les auditeurs, si vous êtes chez vous. C'est vraiment le mouvement où on vient poser le genou au sol et on remonte. Voilà, tout simplement.
On ne pose pas le genou.
Vous pouvez effleurer le sol. Voilà, vous n'êtes pas obligé de rebondir sur le genou.
Je vous le dis, ça fait mal pareil.
Voilà, c'est pour avoir une amplitude complète. Okay. Alors attention, je vais vous donner juste trois points clés à respecter pour bien faire les fentes. Le premier point, c'est sur le genou avant. D'accord ? Donc vous avez une jambe devant, une jambe derrière quand vous faites la fente. Ce qu'il faut regarder, c'est que le genou avant reste aligné à votre pied. D'accord, parce que pendant que vous descendez,
il va avoir tendance à quoi, aller vers l'intérieur.
Ouais, il va avoir tendance à aller vers l'intérieur la plupart du temps. Donc faites attention à ça, qu'il reste bien aligné.
Au
d'accord.
Pied, donc face.
Ouais, quoi, à vos orteils quoi, d'accord. À peu près à vos orteils.
Ça c'est pour éviter la blessure, j'imagine.
Alors oui, parce qu'après sinon ça tire un petit peu trop sur le genou, sur les ligaments, sur d'accord. Les tendons, c'est pas terrible. Voilà. Okay. Ensuite, numéro 2, c'est que votre mouvement, en gros l'action de la fente part du genou arrière. Je vous ai dit, fléchissez votre genou arrière.
Je vous avoue, on le sent qu'en le faisant. Je vous invite vous auditeurs. De faites, repas, faites à vous le... mettre en fente tout
voilà,
de suite.
Mettez-vous en fente.
Sauf si vous conduisez, évidemment.
C'est ça, exactement. Donc vraiment, pensez à plier votre genou derrière. Pas le genou devant va se plier naturellement. Mais d'accord. Souvent, les gens plient le genou avant d'abord et ils sont inclinés en avant, ils n'ont pas la bonne posture.
Donc,
et
plus, pourquoi derrière, ça entraîne le mouvement.
Mais pourquoi c'est pas bien de mettre le genou trop en avant?
Alors, c'est pas que c'est pas forcément bien, mais c'est que ça, déjà, ça peut vous faire décoller le talon et on va plus être dans un mouvement de fente, on va plus travailler les mêmes muscles. D'accord, donc, il y a une règle qui est intéressante qu'on utilise, nous, coach, pour vérifier que le mouvement est bien, c'est la règle du 90-90.
C'est quoi ça ?
C'est les mensurations.
Deux angles droits. Deux angles droits. Un angle droit sur le genou avant, un angle droit sur le genou qui est derrière.
Ouais, c'est tout un art de faire des fentes,
des
belles fentes.
C'est des maths, on utilise le théorème de Pythagore.
Et le buste,
tout ça.
On est comment, hyper droit ?
Exactement. Le troisième point, Julia, c'est ça, c'est le buste. Il faut que la posture soit bien redressée. Ne vous inclinez pas en avant et n'arrondissez pas votre dos. Restez bien ouvert.
Moi, j'ai un problème avec les fentes, c'est que je perds l'équilibre à chaque fois.
Oui, 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 on voit souvent ça, mais... Alors, ne faites
pas que quand vous êtes en fente que vous perdez l'équilibre.
Ne faites pas des fentes après l'apéro aussi, Julia. Mais une astuce, c'est d'écarter un peu plus les pieds. Donc, je vous donne juste l'exemple, c'est si votre pied gauche est devant, vous décalez votre pied gauche un peu plus à gauche. Mmh. Ça vous donne une base au sol en fait qui est plus large et ça donne une meilleure stabilité. Voilà, un meilleur ancrage au sol.
C'est
voilà.
Très clair, hein, franchement. Ouais, qu'est-ce qu'on travaille quand on fait ce genre de mouvement, les fentes? Ça va quel groupe musculaire?
La bonne nouvelle, c'est qu'on travaille tout le bas du corps. Ouais. Voilà. Donc on va travailler les cuisses intérieures, extérieur, arrière, avant tout, et les fessiers aussi.
Ah, ça, on aime bien,
voilà.
Quand même, hein.
Et alors, je vais vous donner des variantes parce que au bout d'un moment, on s'ennuie. Non,
non, mais c'est pas ça. C'est que moi, j'ai pas envie de muscler l'arrière de la cuisse.
Oui, mais,
elle veut pas épaissir le cuisseau.
Ça va pas. Ça va pas l'épaissir votre cuisseau.
Vous êtes sûr?
Oui. Vous inquiétez pas. Ça va pas l'épaissir. Suivant, ça, il faut
vous
vraiment.
En défendre,
il faut des charges très très lourdes pour épaissir l'arrière de la. Vraiment, faut y aller pour.
Ah oui.
Oui, oui.
Donc si on met pas de charge, c'est bon.
Alors, vous pouvez mettre des charges, ça va pas forcément épaissir. C'est le nombre de séries qui va compter. Si vous faites des séries plutôt longues, vous n'allez pas du tout épaissir la cuisse à ce niveau-là.
Elle fait toujours « Oh, j'ai peur, je ne préfère pas faire parce que j'ai peur. »
Ce que je peux vous proposer, Julie, à vous, c'est une variante, par exemple, peut-être plus pour muscler l'intérieur de la cuisse, affiner l'intérieur de la cuisse, c'est de faire une fente latérale. C'est-à-dire que vous allez faire un grand pas sur le côté.
Au lieu de faire un pas en avant, c'est un pas de côté.
Et par contre, on ne va pas plier le genou. Voilà, vous l'avez fait naturellement.
Je plie le genou.
Oui, le genou extérieur. Mais du coup, vous n'avez pas l'autre genou.
Et Mélanie qui veut faire vraiment le focus sur son fessier, vous lui conseillez?
Alors, on a une fente qui est très sympa, mais il faut déjà être un petit peu... Allez, il faut maîtriser la base de la fente, il faut tenir l'équilibre. Vous allez juste faire la même chose en soulevant le pied derrière. Vous le mettez
en
par
latéral
exemple
ou en avant ?
En avant, normal, comme on a fait au début. Et vous allez surélever le pied. Ben, sur la chaise, ça va être peut-être un petit peu haut.
Là, comme ça ?
Non, le pied arrière.
Elle m'a fait des trucs de cabaret.
J'ai que c'était un fauteuil roulant.
Voilà, c'est ça.
Donc avec fauteuil roulant, on évite. Ouais. En fait, le pied arrière, au lieu de le mettre au sol, on va le mettre sur quelque chose de surélevé, un step ou un banc.
Effectivement, c'est, ça s'appelle l'étape d'avant.
Ça s'appelle un squat bulgare. Bon, c'est juste pour info, mais c'est vraiment un super renforcement pour le fessier. Puis après, vous avez plein de variantes pour renforcer, pour même une variante un petit peu cardio, par exemple la fente pliométrique. Oula. On va sauter pour changer les pieds. Enfin voilà, là il faut
être
avancé.
Et là, on fait bosser le cardio.
Là, on a un vrai impact cardiovasculaire.
Excusez-moi, si vous faites des fentes en sautant, je peux vous assurer que
c'est ce qu'elle dit.
C'est difficile.
Sauf que, excusez-moi, quand on saute et qu'on fait des fentes, on peut aussi se faire mal aux genoux, non ?
Alors, en sautant, oui, effectivement.
Elle a toujours peur de se faire
mal. Elle a toujours peur de se faire mal. Mais la fente classique, si vous maîtrisez la fente classique, il ne faut pas commencer par la fente sautée, bien sûr. Si vous faites des fentes normales avec la technique, les trois points dont je vous ai parlé sur les genoux, etc.,
pas de blessure.
La posture, vous n'avez pas de blessure. Et même, je vais vous dire, souvent, on a mal aux genoux, par exemple, quand on monte les escaliers ou des choses comme ça, par manque de force ou de stabilité du genou, effectivement. Et en fait, de faire des fentes va renforcer tout ça. Donc franchement, les fentes, c'est un très bon exercice pour le côté esthétique, vous l'avez vu, et pour le côté aussi santé articulaire.
Donc si on devait terminer cette émission, qu'est-ce qu'on dirait ? Faites des fentes ?
Faites des fentes, fentez-vous bien, s'il vous plaît.
Voilà. Et comme disait Mélanie tout à l'heure, ne fentez pas les fentes.
Ne fentez pas les fentes, joli.
Eh bien, merci beaucoup à nous qu'on va mettre tout ça en pratique. En tout cas, dès qu'on aura retrouvé l'adresse de notre courage, tout ça c'est promis. Il est presque midi et notre émission touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous sur Europe 1. On vous retrouve bien sûr lundi à la même heure dès 11h. Et Mélanie, quel sera notre sujet du jour ?
On va parler de tendances, que ce soit dans la mode, la décoration ou même les régimes alimentaires. Elles font régulièrement l'actualité, ces tendances. Dans Bienfait pour vous, on va se poser cette question. Est-ce qu'on fait bien de suivre les tendances ? C'est une bonne question.
Et d'où viennent ces tendances ? Sont-elles inspirantes, innovantes, créatives ou bien servent-elles juste à nous pousser à la consommation ? Nous répondrons à toutes ces questions.